le magazine des Nations Unies.
Le 20 novembre, la date est consacrée chaque année à la célébration de la Journée internationale de la Convention sur les droits de l'enfant. En 2017, le thème retenu est « Pour chaque enfant, des rêves ». Dans cette édition, coup de projecteur sur les rêves des enfants défavorisés de la capitale. ONU Femmes s'en va en guerre contre les violences sexuelles. L'organisation a lancé ce samedi 25 novembre une campagne contre ce fléau. Près de 9504 violences ont été enregistrées en 2017 en République démocratique du Congo. La représentante adjointe de ONU Femmes sera notre invitée. Enfin, la Banque mondiale propose un modèle de gestion de recettes publiques basé sur l'efficacité et l'efficience pour promouvoir le développement en RDC. Deux rapports ont été présentés cet été, mardi dernier. Ils concernent les secteurs de l'eau, de l'électricité, mais également des industries extractives. Les détails dans ce numéro de MAG UN.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue au magazine des Nations Unies. Ce dimanche 26 novembre, l'humanité dédie cette journée aux enfants des rues du monde. Alors le MAG UN s'associe à l'événement en ayant une pensée à tous les enfants de la rue, de la RDC et du reste du monde. Le lundi 20 novembre dernier, l'humanité a célébré la Journée internationale des droits de l'enfant. Le thème retenu cette année est « Pour chaque enfant, des rêves ». Alors combien ces rêves d'enfants sont-ils réalisés en République démocratique du Congo? Jean-Pierre Lali Coco s'intéressait aux rêves de quelques enfants défavorisés de la capitale, ainsi que sur les moyens de traduire ses rêves en réalité. Suivez plutôt son reportage.
J'ai droit à un nom, à une nationalité et à une identité. J'ai droit d'être protégé, d'être traité avec humanité.
C'est Bigoda Sadrak, 13 ans, récita les droits de l'enfant quasiment par cœur. Enfant de la rue, encadré au centre de rééducation des enfants des Bandals. Son rêve, devenir avocat. Comment? Il ne le sait pas. Par contre, Joe Mali, 20 ans, autre enfant de la rue du même centre, n'a jamais été au banc de l'école. Il a toutefois un rêve.
Je veux devenir footballeur ou bien mécanicien.
Cependant, les rêves des enfants défavorisés peinent à se réaliser. La réalité est plus criante à quelques kilomètres de là, sur la route des poids lourds, dans la commune de Limété. Ici, se dressent des taudis contre la longue muraille qui sépare la route du chemin de fer. Près de 400 ménages y vivent dans des conditions inhumaines. C'est ici que vit aussi Sila, une fille de 13 ans. Son rêve.
Je veux devenir ingénieur.
Ingénieur. Et pour devenir ingénieur, qu'est-ce qu'il faut faire?
Je n'ai pas de moyens pour étudier. Je suis seulement avec maman, papa et maman.
Basile Lompati Adam, lui, a 20 ans, l'âge de la maturité. Lui aussi a un rêve, mais...
De devenir un avocat.
Un avocat?
Oui.
Et tu sais ce qu'on doit faire pour devenir un avocat?
Bon, moi je ne connais pas parce qu'il n'y a pas de possibilité d'étudier. Bon, qu'est-ce que moi je dois faire?
Et pourquoi vous êtes ici?
Je suis ici. J'ai venu à Kinshasa. J'ai quitté d'abord notre village pour chercher ici. Mais ici, nous avons trouvé du mal.
Pour l'artiste et musicien Jean Goubal, il faut commencer par les commencements.
Aller directement parler des rêves des enfants, c'est avoir escamoté un rêve principal qui est celui de la RDC. La RDC, dit-on, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Congo. Mais ce rêve-là du Congo doit commencer par se réaliser d'abord, parce que les enfants rêvent trop petits. Pourquoi? Parce que les leaders ne font pas rêver grand. Au Congo, les gens rêvent trop petits.
Des rêves, les enfants défavorisés, comme tous les enfants les ont. Mais les goulots d'étranglement demeurent, la possibilité pour les matérialiser. Et à travers la RDC, ces cas sont légion.
Autre chose, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a publié mercredi dernier le rapport mensuel des violations des droits de l'homme pour le mois d'octobre 2017 en RDC. Le Bureau a noté une nouvelle augmentation des violations et appelé donc le gouvernement à traduire les présumés auteurs en justice. Les principales tendances de ce document, avec vous Jean-Pierre Lali Coco.
Le Bureau conjoint note une nouvelle hausse des cas de violations en octobre 2017. 704 cas documentés, soit une augmentation de 60% en deux mois. Les principaux auteurs de ces violations sont des agents étatiques, c'est-à-dire des militaires des FRDC, des éléments de la police responsables de 63% des violations, dont l'exécution extrajudiciaire de 56 personnes. Les groupes armés sont responsables de 162 atteintes aux droits humains avec exécution sommaire ayant entraîné la mort de 135 personnes. Les membres d'organisations de la société civile sont le plus visés par ces violations. Autre tendance, quasiment toutes les provinces du pays sont concernées par ces violations, avec à la clé une inquiétante propagation des activités de groupes armés dans les provinces et considérées comme n'étant pas habituellement affectées par les conflits comme les Maniema et les Haut-Katanga. Dans les territoires de Puito, par exemple, une mission d'enquête du bureau a révélé la mort de 19 personnes lors des affrontements entre Bantous et Pygmées. Enfin, lutte contre l'impunité, au moins 5 militaires, 2 policiers et 3 membres des groupes armés ont été condamnés.
Autre actualité de la semaine qui s'achève, c'est la présentation de 2 rapports par le groupe de la Banque mondiale. C'était le mardi dernier à Kinshasa. Le premier rapport porte sur la gestion des dépenses publiques, accroître l'efficacité et l'efficience du secteur public pour promouvoir la croissance et le développement. Le deuxième rapport a trait à l'utilisation de la rente des industries extractives. Les détails, c'est encore avec vous, Jean-Pierre Lali Coco.
Ces 2 rapports partent du constat selon lequel les recettes publiques et domestiques sont insuffisantes pour promouvoir la croissance et le développement de la RDC. Le financement du secteur public dépendant en grande partie de l'extérieur. C'est le cas de l'eau et de l'électricité. Laurent Debrou, représentant résident de la Banque mondiale en RDC.
Dans un pays qui dispose d'autant de ressources hydrauliques et énergétiques, la situation sous-optimale des secteurs de l'eau et de l'électricité résulte dans de l'insuffisance des allocations en ressources financières. Environ 84% du financement est extérieur. 14% est de l'autofinancement par la régie des eaux et l'État, lui, n'a contribué qu'à hauteur de 2% du montant total.
Ces rapports révèlent que la RDC demeure l'un des pays où le taux d'accès à l'électricité est le plus faible du monde. Dans le deuxième rapport, il est beaucoup plus question des industries extractives dont la rente devrait contribuer au bien-être de la population congolaise. La RDC devrait s'inspirer de l'exemple de la Corée du Sud. Shadi Bou Habib, économiste en chef pour la RDC à la Banque mondiale.
Le président coréen a en fait dit 52% de mon budget est financé par les États-Unis. Comment est-ce que moi je peux penser à des politiques de développement de long terme, d'une partie axée sur la réforme fiscale, notre partie axée sur la réforme administrative et une troisième partie sur la transformation structurelle de l'économie. Et ces politiques ont mené à la Corée du Sud que nous voyons aujourd'hui.
Les 2 rapports ont été remis au vice-ministre des Finances en présence des ministres du Plan et des Mines.
Nous retrouverons dans quelques instants M. Shadi Bou Habib, économiste en chef de la Banque mondiale, dans un décryptage. Il va nous parler justement des 10 rapports.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Voilà, comme promis, nous revenons sur la présentation des 2 rapports de la Banque mondiale sur la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Lali Coco reçoit pour nous M. Shadi Bou Habib, économiste en chef de cette institution financière internationale pour la République démocratique du Congo. Suivez leur entretien.
Monsieur Shadi Bou Habib, bonjour.
Bonjour.
La Banque mondiale vient de publier 2 rapports en ce qui concerne justement la RDC. Est-ce que vous pouvez nous dire l'essentiel de ces 2 rapports?
Oui, merci. Ces 2 rapports sont dans la suite d'une analyse qui a commencé en 2015 sur la revue de la dépense publique et de la responsabilisation financière et qui regarde à quel point la dépense en RDC est suffisante pour répondre aux besoins de la population et regarde aussi si cette dépense est efficace et quels sont les mécanismes pour la rendre plus efficace. Et puis, on focalise sur 5 secteurs. On a déjà couvert la santé, l'éducation et les transports routiers lors de la première édition. Là, la deuxième édition, on couvre l'eau et l'électricité et on fait à la fin un modèle d'équilibre général qui permet de voir si la RDC mobilise plus de recettes domestiques à travers la fiscalité et si ces recettes sont utilisées d'une manière efficace pour investir dans les secteurs clés de la santé, de l'éducation, du transport routier, de l'électricité et de l'eau. Si tout cela est fait, quel va être l'impact en termes de croissance économique, de réduction de la pauvreté et de développement du secteur privé? Donc ce modèle d'équilibre général permet donc de voir si on fait plus, on a plus de recettes et on les utilise bien dans les secteurs clés, de l'eau, de l'électricité, de la santé, de l'éducation et du transport routier, comment on va ça va permettre d'améliorer les perspectives de croissance, d'augmenter le bien-être de la population, de diversifier l'économie, de permettre le développement de nouveaux secteurs, notamment l'agriculture.
Lorsque vous avez parlé du premier rapport, vous l'avez axé justement sur l'électricité, vous venez de le dire. On a remarqué que 50% de la population congolaise accède à l'eau potable et seulement 14% à l'électricité. Donc, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Et que propose la Banque mondiale dans le cadre de ce rapport?
Effectivement, d'après l'Organisation mondiale de la santé, on peut considérer qu'on a accès à l'eau potable si on peut parvenir à une source d'eau potable à 30 minutes de marche, aller-retour. Effectivement, il y a 53% de la population congolaise en milieu urbain qui a accès à une source d'eau et 13,5% en milieu rural, ce qui est très peu. Et là, on parle de l'eau de bonne qualité ou de qualité acceptable. Et il y a aussi le problème de l'assainissement, il ne faut pas oublier ce problème. Et bien alors là, les taux d'accès sont encore beaucoup plus faibles. Au niveau de l'électricité, on pense que c'est 15-16% de la population qui a accès à l'électricité, 32% en milieu urbain, 6% en milieu rural, c'est très très peu. Alors les conséquences de ça, c'est en termes de bien-être, elles sont évidentes. Au niveau de l'assainissement, les implications en termes de santé sont directes. Au niveau de l'électricité, l'approche en termes de diversification qui est mise à mal, parce que comment diversifier si on n'a pas l'électricité pour stimuler le secteur privé, sans parler aussi de l'effet de bien-être pour la population. Alors que propose la Banque mondiale? Nous avons toute une série de propositions, mais nos propositions vont dans deux directions essentiellement. La première direction, c'est qu'il faut faire de façon à mobiliser suffisamment de recettes pour un programme d'investissement dans les deux secteurs. Il faut augmenter la capacité de production de services dans les deux secteurs. Et pour cela, il faut un programme d'investissement. Et pour ce programme d'investissement, il faut mobiliser les recettes domestiques. Deuxièmement, dans les deux secteurs, il y a deux grandes entreprises publiques. Et ces deux grandes entreprises publiques, il faut améliorer.
C'est la Régie des Eaux et la SNEL.
La Régie des Eaux pour l'eau en milieu urbain et la SNEL pour l'électricité. Et bien, ces deux entreprises, leur place dans les secteurs respectifs de l'eau et l'électricité est prépondérante et il faudrait augmenter leur efficacité organisationnelle et opérationnelle pour que ces entreprises soient à même de fournir les services de bonne qualité à la population et à l'économie.
Pour terminer, M. Chadi, vous avez évoqué l'exemple coréen dont les dépenses publiques dépendaient à 52% en 1963, si je m'abuse, des États-Unis et le pays a fait un effort. Et quel enseignement la Banque mondiale peut-elle tirer de la RDC dans les cadres purement du développement de la RDC?
Oui, j'ai bien sûr mentionné ce que a dit le président coréen en 1963, mais avant de revenir en 1963, je vais déjà mentionner aussi l'initiative d'Addis de 2015. Cette initiative d'Addis met l'accent sur la nécessité d'avoir une mobilisation des recettes domestiques adéquate et efficace pour un financement soutenable à long terme du développement des pays concernés. Alors ça, c'est déjà, on n'est pas en 1963, on est en 2015 et il y a cette initiative. Et si on revient en 1963, alors de quoi, quel enseignement pouvons-nous tirer de ce qu'a dit le président coréen? Le président coréen, en fait, dit un peu la même chose que l'initiative d'Addis. Il dit, voilà, je regarde, 52% de mon budget est financé par les États-Unis. Donc, comment est-ce que moi je peux penser à des politiques de développement de long terme si, en tant que pays, nous n'avons pas les moyens de nos politiques? Donc, et il a initié toute une série de politiques qui étaient une partie axée sur la réforme fiscale, une autre partie axée sur la réforme administrative et une troisième partie sur la transformation structurelle de l'économie. Et ces politiques ont graduellement mené à la Corée du Sud que nous voyons aujourd'hui.
Donc, l'exemple peut servir bien sûr à la RDC.
L'exemple devrait servir à tout pays qui met comme objectif l'émergence et une croissance inclusive qui permet d'améliorer le bien-être de la population et qui permet de la sortir de la pauvreté.
Monsieur Chadi Bou Habib, je vous remercie.
Merci à vous.
Et nous commençons par cette information. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Mamam Tidikou, a participé cette semaine à Addis Abeba, en Éthiopie, à une réunion des garants de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Cette réunion a fait suite à la publication du calendrier électoral par la CENI. Et selon certaines sources, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a pris part à cette rencontre. Et puis la MONUSCO a réitéré mercredi son appel à la vigilance en raison des nouvelles fausses annonces d'emploi et de promesses d'embauche à la mission onusienne. C'était lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. En effet, il a été rapporté que deux escrocs contractent des personnes par téléphone en leur promettant du travail à la MONUSCO. Ils demandent à leurs victimes de verser 145,5 $ américains via Airtel Money pour la constitution du dossier. Pour la MONUSCO, il s'agit d'une tentative d'arnaque. Elle rappelle à ce sujet que les Nations Unies pratiquent une politique de transparence en matière de recrutement et ne perçoivent aucun frais pour la constitution des dossiers. Enfin, rendons-nous à Kananga dans le Kassai central pour parler de ce don de la MONUSCO remis à la prison centrale le 20 novembre dernier, don composé de 30 kg de médicaments de première nécessité et d'effets médicaux en faveur des détenus. La remise de ce don s'est déroulée en présence du chef du bureau de la MONUSCO et du ministre provincial de la Justice.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'ONU Femmes a répertorié 9421 cas de violences sexuelles en RDC entre janvier et octobre 2017. Ce tableau atteste que le problème est réel en RDC et c'est ce qui justifie le lancement ce 25 novembre de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles. Au cours de cette campagne, ONU Femmes voudrait principalement vulgariser toutes les lois en la matière, d'où l'appel pour l'implication de toutes les catégories sociales afin de lutter contre les violences sexuelles et ainsi envisager atteindre la parité d'ici 2030. Madame Fatou Guiwa, représentante adjointe d'ONU Femmes en RDC, est notre invitée. Elle s'entretient avec Mimi Ngumba Mulongo.
Madame Fatou, bonjour.
Bonjour.
Ce 25 novembre, l'ONU Femmes va lancer la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles faites aux femmes. Et pour cela, vous sollicitez l'implication de tout le monde. Est-ce que le problème est aussi criant qu'il y a plusieurs années?
Je dirais que le problème n'est pas si criant qu'il y a plusieurs années, mais elle existe. Elle existe, et juste pour vous donner des chiffres, l'année dernière, en 2016, on a eu 21 777 cas de violences sexuelles en RDC. Cette année, entre janvier et octobre 2017, on en est à 9421. Donc ce problème existe. Et il ne faut pas qu'on presse les bras. Le thème de cette année, ne laisser personne pour compte et mettre fin à la violence contre les femmes, est un thème très important. Et comme vous le voyez, nous voulons nous assurer que tout le monde participe à cette lutte contre la violence contre les femmes. Nous avons des objectifs millénaire d'atteindre la parité en 2030. Et pour ce faire, la violence contre les femmes doit être vaincue.
Et comment voyez-vous l'implication de tout le monde? Qu'ils doivent faire les uns et les autres dans cette campagne?
Les uns et les autres, nous devons tous nous impliquer. Tous nous impliquer, et pour vous donner un exemple, ONU Femmes avec le gouvernement de la RDC, ainsi que le bureau du représentant personnel du chef de l'État, le ministre du Genre et de la Famille, les agences onusiennes, les ONG internationaux et nationaux, nous allons le samedi lancer au niveau de l'Académie des Beaux-Arts, la journée. Ce lancement se fera à deux niveaux. On aura donc la vulgarisation des textes de loi. Donc on a principalement 8 lois que nous voulons vulgariser. Et parmi ces lois, on a la loi la lutte contre les violences sexuelles. Nous avons la loi de la parité. Nous avons la résolution 1325. Et nous avons aussi le code de bonne conduite pour la prévention des conflits. Donc nous voulons nous assurer que les gens sont informés, donc vulgarisés, avoir des stands. On aura un total de 24 stands avec des experts, deux experts pour chaque stand qui pourront expliquer à la population de quoi il s'agit. Et nous comptons vraiment sur les médias pour faire circuler l'information.
Vous mettez l'accent sur la vulgarisation de la loi et puis la participation de tout le monde. Devons-nous comprendre que les grands travaux à faire, c'est au niveau des institutions, des autorités, qui doivent non seulement s'impliquer dans la vulgarisation, mais aussi dans l'application?
La loi, la stratégie, pardon, de la lutte contre les violences sexuelles a été révisée. Elle a été mise en place en 2009. Elle a été revue, une revue donc à mi-parcours en 2011 et une évaluation en 2014. Ceci montre déjà l'engagement du gouvernement à savoir quels sont les impacts par rapport à l'implication de cette stratégie et pouvoir voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et pouvoir donc avoir une révision de cette loi. Elle a été faite actuellement, donc en 2016, et elle est actuellement en cours de validation. Il y a des lois, comme je le dis, que la RDC a ratifiées. Mais sans être vulgarisée, sans être connue du monde, hélas, nous ne pourrons pas obtenir le résultat dont on a besoin. Et c'est pour cela qu'on travaille avec le gouvernement et les différents partenaires à cet effet-là pour s'assurer que les gens sont informés par rapport à ces lois.
Au moins, vous pourrez nous évaluer l'action de ONU Femmes dans la lutte contre le violence sexuelle.
Mais bien sûr, ONU Femmes avec ses partenaires. Et comme je dis, ce qui est important pour nous, c'est d'être coordonnés. Il faut qu'on travaille en coordination. Et cette coordination avec le gouvernement, avec les autres agences onusiennes, on pourra vulgariser les textes, mais aussi aider. Aider dans quel sens? C'est autour de 4 points. Il faut qu'on brise le silence. Il faut qu'on puisse dénoncer. Et que les gens sachent que c'est une action qui n'est pas à accepter. Il nous faut aussi autonomiser les femmes. Hélas, si on n'a pas pu prévenir et que l'action a eu lieu, il faut que ces femmes puissent être réinsérées dans la société et pouvoir être autonomes. Il nous faut agir, nous assurer que l'impunité n'existe pas et que toutes les personnes qui ont eu à faire des actions répréhensibles soient punies. Et enfin, il nous faut transformer. Il faut que les gens comprennent que les victimes des violences sexuelles ne sont pas à stigmatiser. Ils sont à aider, à réinsérer. Réinsérer au niveau social, au niveau économique, au niveau psychologique, au niveau juridique et judiciaire.
Madame Fatou, je vous remercie.
C'est moi. Merci beaucoup.
Rendons-nous dans la province du Nord-Ubangi, précisément au camp Dinké, où plus de 16 000 sujets centrafricains sont hébergés dans ce camp Dinké, l'un des camps qui accueille les réfugiés de la RCA depuis la chute de François Bozizé en 2013. Mais d'ici peu, ce nombre sera revu à la carte d'autres vagues. De nouveaux réfugiés continuent de traverser la frontière congolaise dans cette région. Cela va donc demander la croissance de l'assistance de la part du ACR et ses partenaires. Un pensionnaire de ce camp l'a fait entendre de vive voix mardi, soulignant surtout la nécessité pour le gouvernement centrafricain et la communauté de rétablir une paix durable afin de ne pas abuser de l'hospitalité de la République démocratique du Congo. Les propos du réfugié centrafricain recueillis ici par notre envoyé spécial Honoré Missinga Kalala.
En cela, je lance un appel SOS à tous les bailleurs et les organismes de nous voler au secours pour notre stabilité ici sur le sol congolais. Je sais que le gouvernement congolais nous a accueillis avec empressement, nous lui disons grand merci, mais qu'il fasse un effort pour que les bailleurs viennent au secours des réfugiés centrafricains. Ce que je demande au gouvernement centrafricain, c'est de tout faire d'apaiser la situation de la Centrafrique afin que nous puissions repartir de notre pays pour rebâtir ce pays. Nous savons que le Congo nous a accueillis. Lui aussi, il a ses problèmes. Donc, il est temps pour nous aussi pour aller dans notre pays. Et que le gouvernement consentit un effort avec l'appui de la France qui est notre partenaire pour pouvoir aussi remettre la paix durable dans ce pays. Car nous avons besoin de repartir dans notre pays.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
Et la question de ce dimanche concerne la base des Nations Unies à Kampala. Je vous propose de suivre la question du journaliste et bien évidemment la réponse de la porte-parole de la MONUSCO, Madame Florence Marchal.
C'est Aline Eng pour le compte de chukudunews.com. La MONUSCO a un mandat en RDC. Et l'opinion se pose la question de savoir comment se fait-il que sa base logistique se retrouve en TB en Ouganda. Et existe-t-il une collaboration entre la MONUSCO et le gouvernement ougandais pour empêcher le mouvement des EDF que vous combattez entre l'Ouganda et la RDC? Merci.
Alors, il y avait deux questions en une. La première, la base logistique de NTB à laquelle vous faites allusion est une base régionale qui sert non seulement la MONUSCO, mais toutes les missions de maintien de la paix qui sont localisées dans cette partie du monde. Donc, ce n'est pas seulement pour la MONUSCO, mais c'est aussi pour la MINUSCA, pour la MINUSMA, pour les missions qui sont au Soudan du Sud également. Donc c'est une base régionale. Quant à la question de la collaboration avec concernant le gouvernement ougandais sur les ADF, évidemment, dans le cadre de ces bons offices, le représentant spécial du secrétaire général est amené à rencontrer les hommes politiques, les personnes qui dirigent les pays frontaliers de la RDC. On l'a dit, aujourd'hui, il est à Addis Abeba dans le cadre d'une réunion de l'accord cadre. Donc, évidemment, ils se parlent. On ne va pas entrer dans le détail de leur discussion, mais on peut imaginer que que ce sujet est abordé lors de ces discussions.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour, moi c'est Loïc Daya. Je suis marié, père d'une jolie petite fille, nom de Shukran Daya. Je suis gradué en télécommunication et réseau informatique, donc à l'ISMICOM, pour ceux qui connaissent, ils savent bien. Et je suis au HR depuis le 17 juillet 2013. Précisément ici, mon lieu d'affectation, c'est Guadolité. Et j'occupe le fonction de ICT Associates. Donc je suis en charge de tout ce qui est réseau Internet, tout ce qui est télécommunication avec Motorola. Et chaque matin, quand j'arrive, je fais d'abord la ronde du bureau, porte à porte, pour saluer les collègues et puis leur demander leurs attentes qui cadrent dans le domaine informatique, qui cadrent dans le domaine de la télécommunication. Comme quoi, bon voilà, je n'arrive pas à imprimer, je n'arrive pas à envoyer un mail, ma radio ne marche pas. Et mon parcours professionnel avant le HR, j'ai beaucoup sillonné. Avant ça, j'étais chez Global Broadband et c'est une boîte qui s'occupe de la connexion Internet par VSAT et boucle locale radio. Avant ça, j'ai été chez Orioncom un moment, je travaillais là-bas. Et puis bon, soudain un jour, la chance a souri que je suis maintenant aux Nations Unies. Donc voilà un peu en bref le parcours. Je n'ai pas vraiment un parcours administratif, si ce n'est que plus technique. Parce que j'aimais déjà la technique depuis bien avant. Et comme il y a beaucoup de temps de travail, il y a aussi des temps libres. Mes temps libres, j'aime souvent le passer dans le calme. Quand je dis dans le calme, pas les silences absolus, mais en faisant quelque chose qui me ramène un peu loin du travail. J'aime parler, je suis un peu comique. Donc j'aime un peu parler avec les gens pour me déstresser. Surtout avec le coin où nous sommes. C'est vraiment très reculé que si vous êtes toujours fusé par le travail, vous finirez un jour par lâcher. Et par rapport à mes préférences, côté musique, j'aime beaucoup la musique, mais plutôt la musique chrétienne. Parce que je suis chrétien, donc je suis aussi berger à l'église Laborne ici à Guadeloupe. Je salue même mon pasteur en passant. Voilà, donc j'aime la musique qui cadre avec l'adoration. Il y a des bons morceaux de l'adoration avec Atoms, beaucoup de gens là. Et par rapport au sport, le sport que j'aime, c'est plus le basket. Malheureusement, là où je suis, il n'y a pas de terrain de basket, donc je me laisse plutôt emballer par le foot. J'aime aussi regarder le foot. Et comme tout chrétien, je regarde plutôt le Barça parce qu'on a quelqu'un qui est Messi. Donc voilà. Et j'aime beaucoup manger comme tout le monde. Et j'aime beaucoup le riz avec l'haricot. C'est ce que j'aime beaucoup. Après le HCR, bon. Vous savez, pour la petite histoire, l'humanitaire c'est bien, les Nations Unies c'est bien, ça paye bien, il faut dire la vérité. Mais seulement, ça nous écarte et ça nous éloigne de nos familles. Je suis ici il y a déjà presque 4 ans ou 5 ans, si je ne m'abuse pas. Je suis loin de ma famille, je suis loin de mes amis, je suis très loin. C'est vrai que tu gagnes mieux par rapport aux autres, mais vous voyez, la communion fraternelle, la famille, c'est quelque chose qui compte toujours. Ouais. Donc je compte à un certain âge parce que en voyant mes aînés, mes sœurs, mes frères qui sont ici, ils ont presque raté la vie fraternelle, la vie du couple. Ouais. Donc je compte déjà vers 40 ans arrêter, évoluer un peu en faisant des activités propres à moi-même. Où moi-même je serai moi-même mon PDG, moi-même mon directeur. Donc je serai tout dans ce qui est du domaine aussi informatique, oui, mais où je serai moi-même maître. Ah. Je salue d'abord ma femme, Laetitia Kelenga, là où elle est, le gros bisou avec ma fille, Shukran. Et je salue ma mère qui est à Kinshasa, loin de moi, mes frères et sœurs et à mes connaissances. Voilà un peu. Et un grand merci à vous aussi. Voilà.
Thank you. magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Campagne de NUFAM sur les violences sexuelles, le MAGUEN se propose de faire le suivi de cette activité. On vous rappelle que ça démarre le 25 novembre et c'est ce qu'on appelle les 16 jours d'activisme. Cette campagne va s'arrêter le 10 décembre 2017. On vous rappelle tout de même que ce dimanche, c'est la journée mondiale des enfants de rue. Et voilà, c'est déjà la fin du MAGUEN. Merci de nous avoir suivis. Tina Salama était au micro, à la mise en onde, Polydor Basunga, à la réalisation, coordination, reportage, Jean-Pierre Elali Coco. Au reportage également, Nourini Senga, sous la supervision de Martin Sebujangwe. On vous dit à très bientôt sur Radio Capi. Merci de votre fidélité. Ciao.